Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Midi, nouvelle formule, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Mais d'abord donc l'information est jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline. Heureux d'être à vos côtés pour cette nouvelle saison qui commence.
Ah bah c'est un plaisir partagé Pascal, bonjour et bonjour à tous. À la une évidemment l'affaire à Pogba aujourd'hui, un champion du monde dans la tourmente, un frère aux allures de maître chanteur et des millions d'euros en jeu, on vous explique tout. Le pas de deux se temps entre les entreprises et le gouvernement alors que le MEDEF fait sa rentrée. On parle surtout sobriété et taxes sur les super profits. Et puis l'homme et la femme s'apprêtent à remarcher sur la Lune. Artemis 1, première fusée de l'épopée, doit décoller dans quelques heures de Floride. Jean-François Clairvoy sera notre invité à 12h40.
RTL toujours plus proche de vous avec deux nouveaux rendez-vous d'ici votre journal de midi et demi.
D'abord, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous. Aujourd'hui, direction le Val d'Ajol dans les Vosges où les habitants ont appris lundi dernier seulement que le collège fermé et qu'il n'y aurait pas de rentrée dans l'établissement. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Si vous n'avez pas encore fait vos courses de rentrée, eh bien on vous explique où aller pour que la facture soit moins salée. Et vous verrez, vive la proximité. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée. La rentrée littéraire, on ne parle pas de pénurie, mais quand même, c'est la première fois depuis 20 ans qu'aussi peu de livres arrivent chez vos libraires.
Il y a moins de romans, effectivement.
490 quand même, ça nous laisse de quoi feuilleter. La question du jour sur RTL.fr, sur l'affaire Pogba, toujours l'équipe de France de foot, peut-elle être impactée? Vous répondez sur RTL.fr.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Mais avant cela, la météo peut-être avec vous, Louis Baudin.
Bonjour Pascal, bonjour Céline.
En un mot, Louis, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
C'est très simple, hein, c'est soleil, chaleur encore à l'image de l'été et quelques orages quand même dans le sud-ouest.
Merci Louis, météo complète évidemment à la fin de ce journal.
RTL Midi.
C'est le nouveau scandale qui secoue le foot français. Paul Pogba, le milieu des Bleus, se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds. On parle de 13 millions d'euros. L'affaire a été révélée ce week-end sur les réseaux sociaux. Guillaume Chies par Mathias Pogba, un frère du champion du monde, aux allures de maître chanteur.
Oui, Mathias Pogba a publié une vidéo de 2 minutes face caméra. Il lit ses notes et promet des révélations à venir concernant son frère cadet, Paul. Tout cela risque d'être explosif, prévient-il. La vidéo a immédiatement fait réagir les avocats du joueur qui ont publié un communiqué. Ils dénoncent un chantage qui dure depuis plusieurs mois déjà. Chantage qu'ils ont déjà signalé aux autorités françaises et italiennes au début du mois d'août. Paul Pogba a même été interrogé dans cette affaire par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. Il leur a décrit une scène qui a eu lieu à Paris en mars dernier. Ses amis d'enfance l'auraient mis entre les mains de 2 hommes armés et cagoulés qui lui réclament la somme de 13 millions d'euros. Menace réitérée depuis. Mathias Pogba, de son côté, dénonce une manipulation de la part des avocats de son frère et promet plus de détails dans les jours qui viennent.
Merci Guillaume Chies. On vous retrouve après le journal avec Philippe Sanfourche du service des sports pour reparler, tout comprendre de cette affaire et des principaux protagonistes.
On garde les bonnes habitudes, ce sera l'un des focus que nous développerons d'ici 13h. Quelques jours avant les écoliers, les patrons qui font leur rentrée aujourd'hui.
Oui, le MEDEF se réunit à l'hippodrome de Longchamp dans un contexte lourd. C'est d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui prononcera le discours d'ouverture dans quelques instants. Guerre en Ukraine, donc appel à la sobriété, crise énergétique. Le gouvernement lance la mobilisation générale, mais du côté des chefs d'entreprise, Anaïs Bouissou, on a l'impression d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts.
Oui, faire des efforts pour diminuer la consommation des entreprises, c'est le quotidien de Muriel, chef d'entreprise elle-même qui crée des espaces de travail, tout simplement parce que les chefs d'entreprise y ont intérêt financièrement.
Aujourd'hui, les difficultés économiques, finalement, elles nous poussent à faire les étapes nécessaires, peut-être plus vite, sur le côté transition écologique.
Des efforts, c'est ce que fait aussi Marcel Turbot, négociant en céréales, d'où une difficulté supplémentaire à envisager des efforts supplémentaires.
On a déjà baissé ces 10% depuis 2, 3, 4 ans, donc il y a déjà peut-être 20 ou 30% d'entreprises françaises qui ont déjà agi dans ce sens-là, donc c'est plus difficile de demander à quelqu'un qui a déjà agi depuis 2, 3, 4 ans à diminuer ses factures d'électricité, de gaz et autres, de diminuer encore de 10%. Même.
Et ce que précisent les chefs d'entreprise, c'est que si la Première ministre insiste sur la sobriété énergétique, il n'est pas question de punir.
Venir demander au patron, c'est normal, que c'est son rôle maintenant. Il ne faut pas le côté policier qui vient taper avec son bâton, voilà.
Voilà, vous l'entendez ici, une taxe, des impôts ou tout ce qui ressemblerait à des obligations passerait très mal.
Anaïs Bouissou à Longchamp pour RTL. Il n'y a plus qu'un seul candidat officiel pour l'instant à la présidence du parti LR et c'est Éric Ciotti. Son adversaire annoncé, Virginie Calmels, a vu sa candidature retoquée. L'ex numéro 2 qui avait quitté le parti a bien repris sa carte, mais elle a cotisé. Trop tard, le paiement n'est pas arrivé à temps. Cela lui a été signifié par mail dans le week-end.
Direction la Gironde à présent.
Dans un département très éprouvé par les incendies cet été, avec près de 30 000 hectares détruits par les flammes, un jeune pompier volontaire de 19 ans, vient d'être arrêté. Philippe de Maria, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est un pompier pyromane qui serait responsable à lui seul de plus d'une trentaine de départs de feu.
Exactement, 29 départs de feux de forêt, 2 incendies de bottes de paille dans des fermes. Nous sommes fin juillet, les forêts de Landiras et la Teste, vous vous en souvenez, ont été ravagées. Et donc plus au nord du département, des dizaines de départs de feux inquiètent tout le monde. Peu de ravages, mais une psychose qui s'installe. Les gendarmes se déploient, des patrouilles bien visibles et d'autres plus discrètes qui finissent par remonter jusqu'à cet étudiant pompier volontaire. Le général Barras commande les gendarmes de la Gironde.
C'est des recoupements de différents contrôles qui ont été réalisés jour et nuit sur des voitures et donc des signalements de voitures aperçues dans la zone, etc., qui font qu'au fur et à mesure, on recoupe et on arrive sur l'auteur, en fait. C'est un jeune pompier volontaire de 19 ans hein, qui travaillait chez sapeurs-pompiers de Soulac.
Alors, dans un communiqué, le service d'incendie et de secours de la Gironde qui employait le jeune homme condamne avec la plus grande fermeté des actes criminels dangereux et destructeurs. Fin de citation. Le jeune homme a été placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 15 ans de prison.
Philippe de Maria, correspondant de RTL en Aquitaine. Le Kremlin appelle à faire pression sur l'Ukraine pour réduire la tension autour de Zaporijja, la centrale nucléaire ukrainienne, centrale vers laquelle est en route une équipe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la mission la plus dure de son histoire selon l'agence, alors que la centrale que se disputent ukrainiens et russes a fait l'objet de plusieurs frappes, laissant craindre un incident nucléaire.
Objectif Lune, comme chez Tintin, c'est la fusée la plus puissante du monde qui s'apprête à quitter la Floride dans quelques heures.
Artemis 1, premier pas vers le retour de l'homme sur la Lune. En vous retrouvant en direct des États-Unis, Lionel Gendron, toute la planète a évidemment les yeux rivés sur ce qui se passe à côté de vous. Le décollage était initialement prévu à 14h33, heure française, mais la météo a été un peu capricieuse, quelques orages. Est-ce que le timing sera tenu malgré tout, Lionel ?
Alors, c'est pas gagné, hein. On sait même pas si elle va décoller aujourd'hui, mais pour l'instant, on ne parle que de retard à cause des orages en début de soirée. En effet, il y a eu des éclairs et hors de question de remplir les énormes réservoirs d'oxygène et d'hydrogène liquide avec des éclairs au-dessus de la tête. Et puis ensuite, il y a une fuite d'hydrogène. Elle aurait été réparée, mais ce n'est pas rassurant. Les opérations se poursuivent, mais il ne faut pas dépasser la fenêtre de 2h à partir de 14h33. Tout ça rend Jonathan, 21 ans, venu de Californie, très fébrile.
Very nervous.
Très nerveux, car ça peut être retardé ou même reporté. J'espère qu'elle va décoller aujourd'hui. Ça a toujours été un rêve pour moi. Ça va être intense.
Alors c'est ce qu'espèrent des dizaines de milliers de spectateurs venus autour de Cap Canaveral. Beaucoup ont passé la nuit sur place pour être idéalement placés. Ceux qui ont pu dormir se réveillent en ce moment avec le jour tout juste en train de se lever sur le pas de tir.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL.
Et ce retour de l'homme sur la Lune, on en reparle à 12h40. Ce sera notre deuxième focus avec l'astronaute Jean-François Clairvoy qui sera notre invité.
La météo, on vous retrouve, Louis Baudin. C'est encore l'été. Hein.
C'est encore l'été, oui. On peut commencer par les températures.
C'est plutôt logique d'ailleurs.
C'est plutôt
jusqu'au
logique.
Jusqu'au 22 septembre
voilà,
l'été.
Voilà, on est bien d'accord. Mais donc les températures à l'image de cet été qui atteindront 21 à 25 degrés près de la Manche, 28 à 32 degrés quand même dans les autres régions. C'est un peu au-dessus des moyennes de saison, hein, il faut quand même le dire. Et 34 à 37 degrés même parfois dans le sud-ouest. Alors tout ça avec du grand soleil quasiment partout. Hein. On aura quand même un ciel plus instable dans les régions du sud-ouest. C'est déjà le cas hein, du côté du Pays Basque en ce moment, sur la côte aquitaine. Ça remonte même sur la côte vendéenne où là on a des averses et même quelques orages. Donc ça progressera dans tout le quart sud-ouest en cours d'après-midi.
Et vous travaillez sans doute sur les statistiques de cet été. J'imagine que c'est l'ensoleillement le plus important depuis de nombreuses
dans
années.
Dans beaucoup de régions, effectivement, avec quelques records de température.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette rentrée. RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent la France. Et pour cette première direction, les Vosges. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour à tous.
Avec cette mobilisation étonnante, Dimitri, au Val d'Ajol, où les habitants ont appris lundi dernier, à 10 jours de la rentrée donc, que le collège qui accueille 122 élèves fermait pour des raisons de sécurité.
Oui, c'est un bâtiment de 1974 construit en béton et en métal. Des contrôles de sécurité sont régulièrement effectués, mais au début de l'été, nouvelle expertise, des dalles se fissurent et menacent de s'effondrer. Décision est donc prise par le département de fermer l'établissement.
Un coup près qui tombe comme ça, on imagine que les parents d'élèves sont tombés de haut.
Ah bah oui, beaucoup d'incompréhension, comme chez Christophe, qui du coup depuis une semaine bloque dans le calme, vous l'entendez derrière moi, les accès du collège, notamment avec des palettes en bois, en compagnie d'une trentaine de parents d'élèves.
Dès mardi, on avait des doutes qu'un déménagement était prévu, donc déménagement de tout le matériel pédagogique et scolaire, donc les tables, les fournitures, etc. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi matin, le collectif qui s'est créé suite à cette annonce a décidé de bloquer l'accès pour protéger ça.
Alors, c'est plus un acte symbolique, hein, car tous les parents comprennent que la sécurité doit passer avant tout, mais ils redoutent de ne plus jamais voir un collège au Val d'Ajol.
Et qu'est-ce que propose le département aux collégiens et à leurs parents ?
Eh bien, trois quarts scolaires transporteraient chaque jour, aller-retour, les 122 inscrits entre le Val d'Ajol et le collège de Plombières-les-Bains, 10 km et 30 minutes de plus sur une route de montagne, sinueuse et étroite, impensable pour Audrey.
Ma fille, en fait, elle prend à 7h20 le bus habituellement. Donc là, elle va apparemment reprendre le bus à 8h sur la commune du Val d'Ajol et remonter à Plombières. Donc ça fait une heure de trajet à peu près. On l'avait mis exprès au Val d'Ajol pour qu'elle ait une qualité de vie. C'est inadmissible.
Et les parents ont calculé que l'élève qui habite le plus loin du Val d'Ajol passerait 3h02 chaque jour dans le car, sans compter la correspondance. Donc.
Et on le répète, Dimitri, ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé l'information à 10 jours de la rentrée. Alors qu'en disent les enfants ?
Alors, Madame le maire, Anne Girardin, a écrit au département. Elle propose d'utiliser des locaux municipaux. L'idée est d'aller à Plombières au plus tard jusqu'aux premières gelées et de rester ensuite au Val d'Ajol, car après, la route serait trop dangereuse.
Et j'ai dit,
l'accord de principe, je ne vois pas pourquoi il ne le donnerait pas. Après, bien sûr, mon rôle de maire, moi, est d'assurer quand même la scolarité des enfants dans les meilleures conditions. La rentrée est donc faite à Plombières pour l'instant, mais rien n'est impossible pour justement adapter au plus vite les locaux communaux pour faire revenir les enfants ici dans de bonnes conditions de scolarisation.
Donc ça, c'est l'alternative proposée par les parents et par la mère, on l'a compris. Dimitri, les principaux intéressés, les enfants, qu'est-ce qu'ils en disent ?
Eh bien, ils se sentent très concernés. Hein. Certains passent même du temps avec leurs parents pour bloquer les accès du collège, notamment Diane et Jules. Ils vont entrer en cinquième.
Ce qui était bien, c'est que j'habitais tout près du collège, ce qui fait que je pouvais venir en vélo et limite, je suis très fâchée. Ça me fait un peu peur de traverser la montagne.
Et les familles, elles viendront plus parce qu'il n'y a pas de collège. Et du coup, Intermarché, tout ça, ils vont peut-être fermer. Et après, ce serait une ville déserte presque.
Ouais, ville déserte parce que la fermeture du collège, c'est aussi une menace économique. Alors, qu'est-ce qui va se passer vendredi, Dimitri ? Je dis vendredi parce que la rentrée, elle a été décalée d'une journée au Val d'Ajol.
Oui, c'est bien ça. Alors, ils sont en train d'en discuter. S'il n'y a pas de réponse jeudi à la proposition des parents et de la mairie ou qu'elle est négative, une majorité de parents ne laissera pas monter son ou ses enfants dans le car et une classe sauvage sera organisée devant le collège du Val d'Ajol.
Merci beaucoup, Dimitri Ramelot, en direct du Val d'Ajol dans les Vosges pour RTL.
Dans une seconde, l'affaire Pogba qui secoue le monde du football. Tentative d'extorsion sur le champion du monde. Une famille qui se déchire et des millions d'euros en jeu. On vous explique tout ça dans un instant.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Raffaella Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit.
La voix de Mathias Pogba, le frère du champion du monde, vidéo publiée sur les réseaux sociaux en quatre langues et qui a fait émerger cette affaire. Émerger, Guillaume Chiesre, bonjour. Car si on l'a découverte ce week-end avec vous, cette affaire, en réalité, elle avait démarré il y a quatre mois.
Oui, en mars dernier, Paul Pogba rend visite à sa famille en Seine-et-Marne. Des amis d'enfance font irruption. Il l'entraîne dans un appartement parisien, selon ses dires. Là se trouveraient deux hommes cagoulés, armés. Il lui réclame la somme de 13 millions millions d'euros. Ce montant équivaut selon eux à ce que coûterait la protection discrète qu'il prétend lui avoir apportée durant 13 ans. Cette scène, l'international l'a décrite aux enquêteurs français en affirmant que d'autres menaces avaient également eu lieu depuis, notamment au centre d'entraînement de son club à Turin. Paul Pogba a déposé plainte début août, mais cette affaire n'avait jamais été rendue publique jusqu'à samedi soir. Depuis, Mathias Pogba, l'aîné de Paul, a publié donc cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il promet de grosses révélations à venir sur son frère, mais également sur Kylian Mbappé et Rafaela Pimenta, l'agente du joueur.
Et qui est précisément cette Rafaela Pimenta ?
Eh bien, c'est elle qui représente les intérêts de Paul Pogba depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a également pris la succession de Mino Raiola, un agent de joueur ultra influent qui est décédé en avril dernier. Mathias Pogba prétend donc avoir également des révélations à faire sur cette femme que son frère appellerait sa seconde mère. Selon nos informations, Rafaela Pimenta a également été entendue par les enquêteurs français début août. C'est même elle qui aurait poussé Paul à dénoncer les menaces dont il était victime.
Et Guillaume, vous avez cité Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ?
Alors ça, c'est un peu l'histoire dans l'histoire. Les maîtres chanteurs menaceraient également de révéler des messages dans lesquels Paul Pogba s'adresse à un marabout, un proche de la famille, auquel il aurait demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Selon l'AFP, Paul Pogba s'est exprimé sur ce point face aux enquêteurs. Il dément catégoriquement cette information.
Je me tourne vers vous maintenant, Philippe Sanfourche. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste football ici à RTL. On a entendu au début de cette séquence la voix de Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, qui ici jouerait le rôle de maître chanteur. Qui c'est Mathias Pogba ?
C'est l'un des grands frères de Paul Pogba, frère jumeau de Florentin, tous deux joueurs. Alors Mathias Pogba, c'est pas le plus talentueux sur le terrain. Il a eu une carrière assez longue, mais sans atteindre de sommet. Au mieux, il a été en deuxième division italienne. Il s'est essayé un petit peu au rôle de consultant en télé la saison passée. C'est surtout l'un des piliers jusqu'à présent. Enfin, c'était jusqu'à il y a encore quelques semaines l'un des piliers de ce qu'on appelle le clan Pogba. Le clan Pogba, c'est 40-50 personnes au stade, par exemple, après le match, qui sont capables d'organiser une danse dans le parking, puis ensuite ça se termine dans les établissements de nuit, où Mathias Pogba a toujours été extrêmement jovial et l'un des premiers représentants de son joueur. C'est donc très surprenant de voir aujourd'hui ce revirement aussi net, aussi frappant, et qui déstabilise finalement tout le milieu du foot, parce que personne ne comprend en fait précisément ce qui se passe.
Ça montre aussi la difficulté pour un joueur de football qui devient milliardaire, parce que l'argent est au cœur évidemment de cette histoire, de s'extraire de son milieu d'origine, de ses amis, de sa famille, cette difficulté à vivre sans son passé.
Mais Paul Pogba a surfé finalement sur cela depuis le début de sa carrière, depuis plus de 10 ans, et avec un certain bonheur, qu'il ait été à Turin ou à Manchester, il y a toujours eu chez Paul Pogba, comme je disais, une cinquantaine de personnes en permanence, ce qui ne l'a pas empêché de conduire sa carrière au très haut niveau, avec des hauts et des bas, mais en restant au très haut niveau, en étant champion du monde. Aujourd'hui, c'est un édifice qui s'effondre, qui pour l'instant fonctionnait sur un équilibre particulier, mais un équilibre qui existait.
Donc ça pose quand même la question de l'entourage des joueurs à chaque fois, Philippe.
Oui, c'est très fréquent dans le football, comme le disait Pascal. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de notoriété. Alors les choses sont toujours
13
un petit
millions
peu
d'euros qui sont réclamés. 13 millions d'euros, ce sont
tout
des sommes considérables.
Mais les entourages toxiques, c'est quelque chose dont on parle, qui a de plus en plus d'importance dans le football. Alors rien n'est jamais précisément édicté, mais on sait par exemple qu'N'Golo Kanté, depuis 10 ans, le Paris Saint-Germain veut le recruter. N'Golo Kanté, pour des raisons qui sont également sportives, ça mêle beaucoup de raisons, mais craint le retour à Paris parce qu'il y a ce risque permanent d'avoir un entourage qui peut ne pas être forcément très bienveillant.
Et d'ailleurs, sans trahir de secret, un enquêteur que j'avais tout à l'heure au téléphone me disait que lors de son audition, Paul Pogba était vraiment tiraillé. Il ne voulait pas non plus charger ses amis d'enfance, son frère. Il était tiraillé entre faire émerger la vérité et dénoncer une situation d'extorsion de fonds et ne pas nuire à sa famille, à son entourage.
Et là, ce qui frappe évidemment l'imagination, c'est parce que c'est le frère de Paul Pogba, en l'occurrence Mathias Pogba, qui promet donc des révélations. Mais ces révélations, elles arriveraient quand ?
Ça, il faut suivre son compte Twitter, dit-il.
Oui, pour le moment, il ne s'exprime que via son compte Twitter. Il ne répond pas aux messages, même à ses proches. Pour l'instant, c'est un suspense qui s'étire.
Est-ce que la police regarder de près ces déclarations possibles de Mathias Pogba et d'imaginer pourquoi pas qu'il ne puisse pas les produire ?
Alors, c'est certains qui vont regarder de près ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas l'empêcher de les produire. En revanche, ils peuvent aussi demander à l'interroger ensuite, Mathias Pogba, et voir ce qu'il a entre les mains et tout cet entourage nocif dont vous parliez, et voir quelle influence cet entourage-là a eu aussi sur Mathias Pogba.
Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Chiez, Philippe Sanfourche, les services police, justice et services des sports RTL pour nous éclairer sur cette affaire.
Dans un instant, les courses de la rentrée, où les faire pour les payer le moins cher possible. A tout de suite.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. RTL Midi. Votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien.
Alors, dans ce nouveau rendez-vous, on va parler consommation, santé, famille, entre autres. Et aujourd'hui, Pascal, à l'approche de la rentrée, on parle fourniture scolaire. C'est le cartable RTL dont on vous parle depuis ce matin. Où faire ses courses pour dépenser le moins ? Et parfois, vous allez le voir, la proximité, ça paie. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est vous qui avez compilé toutes les données. D'abord, on parle de quoi ? C'était quoi ce cartable RTL, cette liste de fournitures scolaires ?
Alors, c'est une liste fictive que l'on a créée à la rédaction. Fictive, mais assez représentative de ce que l'on va retrouver dans la plupart des cartables jeudi matin pour la rentrée. À commencer d'ailleurs par le cartable. Dedans, il y a une trousse avec tout un tas de fournitures, des stylos, des gommes, une règle et puis des cahiers, des intercalaires, quelques feuilles et des pochettes plastiques, 17 fournitures au total tirées d'une vraie liste de rentrée en CE2.
Donc vous avez comparé évidemment les prix dans une papeterie, dans un supermarché et sur Internet.
Avec cette idée bien en tête que c'était sur Internet qu'on allait trouver les meilleures affaires, et bien c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on a appelé le cartable RTL, coûte 95€ dans une papeterie, 98€, donc 3€ de plus dans un hypermarché et même 102€ sur Internet. Et pourtant, c'est exactement la même liste. On a d'ailleurs choisi des marques sur certains produits pour avoir les mêmes références, pour bien comparer les prix. Le cartable en fait partie et c'est assez édifiant. 68€ dans la papeterie, 74€ dans l'hypermarché et même 76€ sur Internet. C'est le cas pour plein de produits. Hein. C'est pareil pour la gomme, 30 centimes dans la papeterie, un peu plus cher en ligne et même deux fois plus cher dans un hypermarché.
Donc le cartable, c'est les deux tiers du budget, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. On a pris un cartable de marque volontairement pour pouvoir le comparer dans les trois commerces.
Le coût de la rentrée, il est malgré tout, même en papeterie, plus élevé cette année. On est sur une hausse de 4% en moyenne. Une augmentation qui est finalement plutôt contenue, hein, Pierre.
Oui, pour plusieurs raisons. En fait, d'abord, parce que c'est moins que l'inflation. L'inflation, c'est 6%, donc à 4%, vous voyez bien qu'on limite un peu la casse. Ensuite, parce que l'indemnité de rentrée scolaire, cette prime de rentrée pour les bas revenus, a été revalorisée de 4% cet été par les députés dans le projet de loi pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que pour les Français les plus en difficulté, la hausse du prix de la rentrée est en quelque sorte gommée. D'autant qu'il faut ajouter pour eux la prime de rentrée, ce chèque de 100€ qui sera versé à partir du 15 septembre. Après, ça ne concerne que les bas revenus, les classes moyennes. Elles vont subir de plein fouet l'inflation sur la rentrée. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on sait d'ores et déjà que la rentrée prochaine, dans un an, en 2023, coûtera plus cher. Les stocks de stylos, de papier, de cahiers sont constitués un an à l'avance. Ça veut dire que les fournitures de cette rentrée ont été achetées en août 2021, bien avant l'inflation qu'on connaît et la guerre en Ukraine. Moi, j'ai discuté avec un vendeur d'agenda qui me disait qu'il avait déjà demandé des hausses de 5% pour la rentrée prochaine en 2023. On pourra l'entendre d'ailleurs comme d'autres cette semaine dans la série 7 jours, 7 reportages consacrés aux fournitures. Demain, ce sera d'ailleurs l'entreprise BIC, premier fabricant mondial de stylos. Et vous verrez qu'eux aussi vont augmenter leur prix déjà pour la rentrée prochaine.
Bon, on n'achète pas tous les ans un cartable. Pour un enfant un cartable, ça peut même faire parfois tout le lycée, tout le collège. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, la rentrée pour chaque enfant, c'est, s'il n'y a pas de cartable acheté, autour de 30€, 35€.
C'est ça. Alors ça, c'est pour notre
cartable à nous, les 16, on enlève le cartable. Il y avait 16 critères que vous aviez pris, 16 objets que vous aviez pris.
Absolument, Pascal.
On est sur 30€.
Oui, c'est ça, sauf qu'il faut savoir qu'un bâton de colle, il ne va pas vous faire toute l'année. Il va falloir en racheter un deuxième dans l'année.
Ça coûte combien, un bâton de colle ?
Un bâton de colle, ça coûte entre 2€ et 2,15€. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le bon plan. Il vaut mieux acheter en gros, parce que si vous en achetez 4, il vous revient à 1,75€. Donc en fait, c'est vrai que là, les bas revenus vont être plus en difficulté, mais c'est bien d'acheter en grande quantité. Il faut 20 feuilles dans une rentrée en CE2. Sauf que si vous achetez un paquet de 200, elles vont vous revenir plus cher que si vous achetez bien un paquet de 500. Le problème, c'est qu'au moment de payer, l'addition, oui, ça va vous coûter cher.
Mais il faut avoir de l'argent, d'avance.
Et on paye moins quand on gagne plus.
Et le conseil, si vous deviez en donner un, c'est de faire un peu de course pour la rentrée prochaine parce que ce sera plus cher l'année prochaine et d'économiser du carburant en allant dans la petite boutique à côté de chez toi.
Et voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on va avoir du mal à trouver un agenda pour la rentrée 2023 cette année.
Ça, c'est vrai. Bon, bah, des bics et des.
Des bics, des feuilles, de on peut colle, en acheter un maximum. Bon. Voilà, c'est ça.
Merci Pierre Herbulot du service économie de RTL. Ça se tend entre les patrons et le gouvernement. Le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui. On en parle dans le journal de 12h30. Dans un instant, il est 12h26.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi Nouvelle Formule, car désormais notre rendez-vous d'information de la mi-journée commence à 12h, mais il y a des habitudes évidemment qui ne changent pas, notamment ce rendez-vous avec les auditeurs à partir de 13h, vous pourrez parler de Paul Pogba, donner votre sentiment, la fonction de président de la République est-elle encore respectée? Samedi, Emmanuel Macron a été insulté sur scène, faut-il mettre en place une taxation des super profits des entreprises, et puis le retour de l'homme sur la Lune, est-ce que ça vous passe? Mais il est 12h30, c'est pour le moment votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et à la une, le MEDEF qui fait sa rentrée, ça se tend entre les patrons et le gouvernement sur fond d'appel à la sobriété alors que plane la menace d'une taxe sur les super-profits. Paul Pogba, victime d'extorsion de fonds, scandale qui secoue le foot français et le foot italien, vous l'entendrez. Artemis 1, première étape du retour de l'homme sur la Lune, décollage cet après-midi aux États-Unis. À 12h40, dans une dizaine de minutes, Jean-François Clairvoy, astronaute, sera notre invité. La question du jour sur RTL.fr sur l'affaire Pogba, justement, l'équipe de France peut-elle être impactée? On attend vos réponses sur le site RTL.fr. Et puis votre rendez-vous culture de la mi-journée, désormais LVT Midi, ce sera à 12h50 et nous serons en compagnie de Bernard Lehu pour parler de cette rentrée littéraire moins prolifique que les précédentes. Mais vous inquiétez pas, avec 490 sorties, vous aurez quand même de quoi occuper vos soirées.
On a connu des moments plus chaleureux entre le gouvernement et les patrons.
Oui, alors que le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp, le ton se durcit entre les deux parties sur fond d'appel à la sobriété et alors que l'exécutif laisse planer la menace d'une taxe sur les super-profits, Olivier Bost.
Oui, ça c'est sûr que nous avons connu accueil plus chaleureux et il ne faut pas remonter très loin. Il y a un an, à la même rentrée du MEDEF, voici comment le ministre de l'économie était reçu par le patron des patrons.
Ça me permet de remercier le gouvernement et en particulier vous, monsieur le ministre, cher Bruno.
Cher Bruno, et puis des applaudissements qui n'en finissent plus. Un an plus tard, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance et un gouvernement plus fragile politiquement sont passés par là. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, goûte assez peu la tonalité de la rentrée. Il veut bien que les entreprises fassent des efforts de sobriété, baissent leur consommation d'énergie de 10%, mais il se demande comment. Elisabeth Borne pourrait même parler cet après-midi de rationnement pour échapper à la grande coupure d'électricité pour tout le monde. L'autre idée fraîchement accueillie par le patronat, c'est la taxe sur les super-profits. Elisabeth Borne, qui parle à sa gauche, qui s'agite dans sa majorité, ne l'exclut pas. Et c'est déjà trop pour le MEDEF. Le plus grand super-profiteur qui fait les plus grands super-profits, c'est l'État, contrebalance Geoffroy Roux de Bézieux. Ces propos, le gouvernement ne s'y attendait pas du tout. Un ministre confie, avec tout ce qu'on a fait et après tout ce qu'on a fait pour les entreprises, c'est quand même osé de se plaindre. Les applaudissements nourris ne sont pas acquis cet après-midi pour Elisabeth Borne.
Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique de RTL. À droite, Virginie Calmels ne pourra pas briguer la tête du parti LR. Sa candidature est retoquée par la haute autorité en cause. Sa cotisation qui serait arrivée trop tard. Éric Ciotti est donc pour l'instant le seul candidat en lice à la présidence.
L'affaire Pogba à présent qui secoue le foot français, mais pas seulement.
Oui, le milieu de terrain des Bleus, champion du monde, qui se dit victime d'extorsion de fonds, 13 millions d'euros lui seraient réclamés, on en a parlé tout à l'heure. C'est la vidéo de l'un de ses frères, Mathias Pogba, qui a fait émerger cette affaire sur les réseaux sociaux. Frère qui prend d'ailleurs des allures de maître chanteur. Alors l'affaire a déjà fait couler beaucoup d'encre en France, eh bien elle commence à faire beaucoup de bruit aussi en Italie, à Turin notamment, puisque Paul Pogba porte désormais le maillot de la Juve, Olivier Bonnel.
Oui, la vidéo de Mathias Pogba enregistrée en plusieurs langues, dont l'italien, tourne beaucoup ici sur les réseaux sociaux et la presse transalpine commence à regarder de près cette histoire rocambolesque. On se croirait dans un film hollywoodien, relève ce matin la Gazzetta dello Sport, l'un des principaux quotidiens sportifs ici. Et courant juillet, un gang d'hommes à capuche se serait présenté à la Continassa, c'est le centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Plusieurs hommes auraient alors menacé d'extorsion Paul Pogba et la star de l'équipe de France aurait, dit-il, reconnu son frère Mathias. La Juve, elle, n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle sur cette affaire. Le club qui se concentre plutôt sur la rééducation de Paul Pogba blessé au genou. Les Bianconeri qui espèrent récupérer leur milieu vedette vers la mi-septembre.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie.
Pogba, le football, l'entourage des footballeurs, ce sera un des thèmes évidemment des auditeurs ont la parole. Autre violence beaucoup trop fréquente, celle que subissent les soignants.
Après l'agression d'un médecin victime de tirs de pistolet à billes à Mulhouse ce week-end, le président de SOS Médecins a réclamé ce matin sur notre antenne davantage de sanctions. Et c'est vrai, Virginie Garin, que les soignants sont de plus en plus souvent pris pour cible.
Oui, encore la semaine dernière, un infirmier a été roué de coups dans une clinique de Biarritz. À Cannes, aux urgences, une femme s'est mise à frapper deux soignants car elle trouvait que ça n'allait pas assez vite. Le nombre d'agressions est en hausse. Selon l'ordre des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés l'an dernier. Ces violences vont de l'injure, la menace au coup et même des agressions avec armes à feu. Alors les syndicats de médecins évoquent le manque de civisme de plus en plus et puis une hausse des agressions liées au Covid. Le respect des gestes barrières et le vaccin ont créé beaucoup de tensions et trop peu de soignants portent plainte, regrette l'ordre des médecins. Un tiers seulement le signale à la police. Alors il faut savoir qu'il existe dans le code pénal des sanctions spécifiques. Lorsqu'un soignant est agressé dans le cadre de son travail, ça va de 7 500 € d'amende pour une injure à 3 ans de prison pour une agression physique.
Merci Virginie. Garin, quasiment 50 ans qu'un train n'était pas passé, le TER a fait son grand retour aujourd'hui à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, direction Nîmes. C'est la première réouverture d'une ligne régionale en France depuis 2016. Hugo Hamelin vous a fait vivre ce lancement ce matin sur RTL. Et à l'écoute, Pascal, il faut bien dire qu'on a été un peu surpris.
Vous n'allez pas me croire, il n'y a qu'une seule voyageuse ce matin sur le quai et c'est une Parisienne. Ce n'est même pas une gardoise, donc voilà, les spiripontins, comme on appelle les habitants de Pont-Saint-Esprit, vont rater leur premier TER. Ça n'inquiète pas la SNCF, c'est une habitude à prendre.
Alors forcément, une seule personne sur le quai, ça nous a interpellés. Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on a voulu faire le point sur ces trains du quotidien. Ils font l'objet de lourds investissements, mais font-ils le plein ?
Non, malheureusement. L'autorité de régulation des transports mesure le taux de fréquentation un peu partout en France. Et contrairement aux lignes TGV qui font à nouveau le plein depuis la crise sanitaire, eh bien c'est beaucoup moins le cas pour les lignes de TER, Transilien ou encore le RER. Elles ont du mal à retrouver un niveau d'avant-crise. À peine 66%, voilà pour les lignes régionales déjà installées. Alors bien entendu, ce matin, il s'agit d'une ouverture ou réouverture de lignes. Forcément, la fréquentation n'est pas au maximum. Tout le monde n'est pas encore au courant et les changements d'habitude se font dans la durée. Mais la tendance, elle est bien aux réouvertures de lignes. Souvenez-vous de Jean Castex, il y a par exemple relancé la ligne de TER entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, 3 ans après sa fermeture, c'était l'année dernière. Et bien selon l'association qui a milité pour la réouverture de la ligne, aujourd'hui c'est 10 trains par jour, 8 le samedi, 6 le dimanche. Elle indique que les usagers sont de plus en plus nombreux. Mais effectivement, il y a autant de lignes que de situations et beaucoup d'observateurs ferroviaires estiment néanmoins que les investissements dans le réseau ne sont toujours pas suffisants aujourd'hui.
Mais même s'ils n'ont pas pris de train du quotidien, merci Arnaud. Absolument. Touche, les Français ont été de très nombreux à partir en vacances cet été, saison touristique remarquable. 7 Français sur 10 sont partis, cela représente 35 millions de personnes.
C'est la mission la plus dure de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique.
La IEA, qui vient d'envoyer une équipe pour inspecter la centrale ukrainienne de Zaporijjia, victime de plusieurs frappes qui laissent craindre un incident nucléaire. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Alors on sait qu'une équipe est partie, mais pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on sait.
Oui, et pour preuve, une photo des 14 membres de cette délégation, bras croisés, regard dur, photo postée sur les réseaux sociaux ce matin, sans date ni lieu. On sait juste donc que cette délégation est en route et son inspection est très attendue. Il s'agit de savoir dans quel état est la centrale, si des fuites radioactives ou d'hydrogène sont possibles, dans quel état aussi se trouvent les turbines, les réacteurs, les sarcophages de confinement ou encore les systèmes de refroidissement. Bref, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité. sécurité nucléaire. Et puis, les experts de l'AEA vont aussi rencontrer le personnel ukrainien, voir comment ils travaillent, dans quelles conditions. Rappelons qu'ils travaillent sous la menace des Russes depuis début mars. Enfin, il s'agira de vérifier les images qu'on a vues circuler ces derniers jours des blindés russes entreposés près des turbines, à l'intérieur même de la centrale. Tout cela à condition, bien sûr, que l'armée russe laisse libre accès à tous les recoins de la plus grande centrale d'Europe.
Émilie Bojard du service étranger de RTL. L'aide internationale commence à arriver au Pakistan où les inondations provoquées par la mousson ont fait plus de 1000 morts, bilan encore provisoire. Près d'un million d'habitations ont été détruites ou gravement endommagées d'après le gouvernement pakistanais.
Parce qu'il n'y a pas que la moutarde qui vient manquer. Attention aux pénuries de gâteaux chocolatés.
Oui, pour les goûter des enfants et des grands aussi, de temps en temps. Mikado, Pépito, ou encore petit écolier pourrait bien déserter les rayons de vos supermarchés dans les jours à venir, Agathe Landais. Je savais que ça allait vous intéresser, Pascal.
Oui, ils peuvent déserter nos rayons dans les jours à venir et on constate d'ailleurs déjà des ruptures dans certains magasins. On ne parle pas encore de pénurie, mais il est fort possible, effectivement, que vous commenciez à avoir du mal à trouver ces biscuits au chocolat. Alors pourquoi ? Tous sont en fait produits par le géant de l'agroalimentaire Mondelez, qui aujourd'hui ne reçoit plus aucun chocolat de son fournisseur principal, le chocolatier suisse Barry Caillebeau, plus grosse chocolaterie du monde. En fait, elle a dû totalement arrêter sa production pendant quelques semaines cet été pour suspicion de salmonelle. Par précaution, les usines de Mondelez ont elles aussi fermé deux semaines. Finalement, tout ça était une fausse alerte. Pareil chez le chocolatier, mais le temps que l'usine suisse se remette en marche, ligne après ligne, il va y avoir bel et bien une tension sur les stocks dans nos supermarchés. Et cependant encore plusieurs semaines. On rappelle que ça concerne par exemple les biscuits Milka, Pépito, Oreo ou encore les petits écoliers de Lu.
Merci beaucoup Agathe Landais. La météo à présent, toujours avec vous Louis Baudin évidemment.
Il fait toujours là.
Et c'est toujours l'été.
Et c'est toujours l'été, plus que jamais. Hein, les températures vont encore s'envoler cet après-midi, plus chaudes que durant le week-end. 21 à 25 degrés près de la Manche, mais 28 à 32 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Dans le sud-est également, on dépassera les 30 degrés. Et dans le sud-ouest, autour de la vallée de la Garonne, on frôlera souvent les 35 degrés. On ira même jusqu'à 37 degrés du côté de Montauban. Tout ça avec du grand soleil sur les trois quarts de la France, mais pas dans le sud-ouest. C'est vrai que de la côte aquitaine jusqu'aux Pyrénées, au Languedoc, là on va avoir des averses accompagnées parfois d'orages, des orages qui remonteront vers la vallée de la Loire ou encore vers le sud du Massif central en fin d'après-midi.
Merci beaucoup Louis Baudin.
Dans une seconde, évidemment, nous allons parler de cet nouveau voyage possible pour la Lune, vers la Lune. Voyage en 2024 qui pourrait emmener des Américains.
Nous et une femme pour la première fois.
Et une femme pour la première fois.
Oui, mentionnons-le.
Nous serons avec Jean-François Clairvoy dans une seconde.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
En étant là depuis deux jours, on espère être aux premières loges pour voir ce lancement que tout le monde attend comme étant absolument exceptionnel.
Exceptionnel, oui, le lancement d'Artemis 1, la nouvelle méga fusée de la NASA qui s'apprête à décoller vers la Lune 50 ans après le dernier vol d'Apollo. Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Clairvoy, astronaute, l'un des 10 Français à être allé dans l'espace. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, cette mission Artemis, c'est le grand retour de l'homme sur la Lune. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a attendu un demi-siècle pour décider d'y retourner ?
En fait, la décision d'y retourner ne s'est jamais arrêtée. Le président Bush, au début des années 2000, a lancé un programme encore plus ambitieux qui s'appelait Constellation. Et avant qu'il ait pu lancer quoi que ce soit, 8 ans plus tard, quand le président Obama est élu, il annule le programme. Donc on a toujours voulu retourner vers la Lune. C'est quand les Chinois ont annoncé il y a quelques années, dans leur feuille de route, sans aucune course ni compétition, dans leur feuille de route d'exploration spatiale, ils annoncent « Nous envisageons de poser un Chinois sur la Lune en 2030 ». Et le président américain Trump a réagi un mois plus tard en disant « Ah non, il faut que ce soit nous les Américains qui soyons de retour en premier ». Donc il a imposé à la NASA de mettre en place un programme qui permet un retour en 2028. Et tout seul, l'année suivante, le président Trump dit « Non, 2028, c'est trop tard. Je veux 2024, sous-entendu, sous son deuxième mandat. » C'est pour ça que la NASA a accéléré un peu le développement de ce programme de retour vers la Lune, qui se fera pas donc en 2024 pour le poser à la surface, mais plutôt 2025 au plus tôt et plus probablement 2026-2027.
Donc on dit merci Trump à vous entendre. Là, c'est Artemis 1. Il en faut combien pour qu'on marche sur la Lune ?
Alors, Artemis 1, c'est une mission de démonstration de bon fonctionnement du lanceur et de la capsule Orion avec son module de ressources fourni par l'Agence spatiale européenne et Airbus, et qui est capable d'envoyer des humains vers la Lune, mais pas sur la Lune. Le lanceur SLS, cette grande fusée, et la capsule Orion sont un moyen de transport vers la Lune. Pour se poser à la surface, il faudra qu'on ait mis en place autour de la Lune une station spatiale internationale qui est déjà financée, décidée, mais rien n'est encore lancé. Ça va être lancé dans 2 ans. Elle s'appelle le portail, Gateway en anglais. Cette station spatiale en orbite autour de la Lune sera le point de passage obligé pour faire des descentes à la surface, à n'importe quel point de la surface lunaire. C'est ça qui est intéressant. Le programme Artemis envisage de poser des humains au pôle sud, et pas proche de l'équateur comme les missions Apollo. Donc pour aller sur la Lune, il faut 3 choses. Il faut le programme Artemis de lanceur auquel on va assister aujourd'hui, c'est-à-dire la fusée et la capsule Orion. Il faut la station Gateway, et puis l'atterrisseur qui fera l'aller-retour entre cette station autour de la Lune et la surface. Et cet atterrisseur n'existe pas encore. Ce sera le Starship fourni par SpaceX, qu'a choisi la NASA, et dont les premiers vols d'essai devraient avoir lieu dans les 6 mois qui viennent.
Monsieur Clairvoy, ce qu'on comprenait avec votre première intervention, c'est qu'il y avait un intérêt politique, la suprématie américaine, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a quand même un intérêt scientifique? Et je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent, on va aller sur la Lune. Pourquoi faire? Ça sert à quoi d'aller sur la Lune?
Alors, le premier intérêt de retourner sur la Lune, il n'est pas scientifique, il est opérationnel. Apprenons sur la Lune à répéter, à mettre au point les opérations qui consisteront un jour à explorer Mars. C'est-à-dire se mettre en rendez-vous en orbite autour d'un autre corps céleste.
Mais on ne peut pas le faire ça, on ne peut pas le faire par exemple en simulation. On ne peut pas le faire en simulation sur la Terre, ça, de se mettre en situation comme vous dites.
Oh, c'est impossible. On l'a déjà fait. On l'a fait beaucoup. On l'a fait beaucoup en simulation. Mais dans les faits, se poser... ravitailler une station spatiale, échanger des équipages, naviguer sur place. Il n'y a pas de GPS autour de la Lune. On va devoir en mettre en place. Donc, on va répéter les opérations qui nous donneront du savoir-faire.
Pour aller un jour sur Mars. Mais vous pensez qu'on va aller sur Mars dans les 30 prochaines années? Qu'un homme se posera sur Mars avant 30 ans?
Alors, se poser, je ne sais pas. Mais je pense que dans les 15-20 ans qui viennent, on connaîtra un premier voyage habité vers Mars.
Habité, vous dites.
Avec une mission de typiquement deux... Oui, habité. Les Chinois, d'ailleurs, ont annoncé qu'ils allaient essayer d'être prêts pour la prochaine fenêtre très favorable de lancement vers Mars, qui est en 2033. À mon avis, ça fait un peu
trop. Je rappelle qu'il faut 9 mois pour aller sur Mars. Il faut 9 mois pour aller sur Mars.
Voilà, en moyenne, c'est 8.
Il faut 3 jours. Dans le temps, on mettait 3 jours pour aller sur la Lune en 1969. Mais là, on va mettre 7 jours, d'ailleurs. La fusée est plus lente que celle d'il y a 50 ans, pour des raisons que j'ignore.
Oui, bon, c'est quelques jours. Mars, au mieux, c'est 6 mois. Au pire, c'est 9-10 mois. En moyenne, c'est 8 mois aller, 1 an sur place, 8 mois retour. Les premiers vols habités vers Mars, à mon avis, n'incluront pas le poser. C'est très difficile. Mais les astronautes contrôleront depuis l'orbite martienne des machines, des robots qui seront à la surface de façon beaucoup plus efficace qu'on ne le fait depuis la Terre à cause de ce retard qui peut atteindre 20 minutes de transmission radio. C'est pour ça d'ailleurs que les astronautes de la Station Spatiale Internationale testent des moyens de télécommande de robots terrestres depuis l'ISS. C'est pour préparer ces futures missions de télécommande de robots martiens depuis l'orbite martienne. Donc, en étant vraiment le plus honnête possible, je pense qu'entre 2035 et 2040, on connaîtra un premier voyage habité vers Mars, seulement en orbite. Et probablement dans les années 40, si on n'est pas trop idiot et qu'on arrive bien à travailler ensemble, comme on l'a fait pour l'ISS, comme on le fait pour Artemis, eh bien le premier posé à la surface dans les années 40.
On a bien compris, Jean-François Clairvoy, en vous écoutant, que la Lune, c'était une étape vers Mars. Mais c'est vers la Lune qu'on part aujourd'hui. SpaceX a lancé déjà le tourisme spatial. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les années à venir, on aura du tourisme lunaire?
Alors, le tourisme lunaire existe déjà sur le papier, puisque un milliardaire japonais a déjà réservé pour quelques centaines de millions de dollars un voyage autour de la Lune à bord de cette fameuse nouvelle fusée qu'on appelle le Starship, qui n'a pas encore volé dans l'espace, et qui emmènera ce Japonais avec des personnes de son choix autour de la Lune. Ce sera un voyage de contournement de la Lune, il n'y aura pas de posée. Donc oui, le tourisme spatial inclut déjà aujourd'hui dans le catalogue des missions possibles vers la Lune. Mais pour répondre à votre question tout à l'heure sur l'utilité d'aller vers la Lune, donc je vous ai parlé d'un objectif opérationnel, mais bien sûr, autant satisfaire la demande scientifique, et donc il y aura des expériences scientifiques, mais un autre objectif intéressant, c'est rechercher au pôle Sud la quantité d'eau existante pour savoir si on peut, sur place, extraire de l'eau, de l'oxygène, de quoi faire fonctionner une base sur place. C'est très important.
Si au pôle Sud de la Lune,
au pôle Sud. Oui. Il y a des cratères, si vous voulez, au fond desquels le Soleil n'est pas apparu depuis des millions, voire milliards d'années, et on pense qu'il y a de la glace piégée au fond. S'il y a suffisamment d'eau et qu'on est capable de l'extraire, on n'a pas besoin de l'amener depuis la Terre. Donc ça, c'est un autre objectif du programme Artemis.
Bah écoutez, merci Monsieur Clairvoy. Et puis il y a au moins une chose, et on sera d'accord avec Céline, c'est que ça fait rêver.
Ah, ça
sert
fait
peut-être
rêver.
Pas scientifiquement, et ça sert politiquement, on l'a compris, mais ça fait rêver.
Et si ça vous fait rêver, vous pouvez suivre le décollage d'Artemis 1 en direct sur le site rtl.fr, vous ne raterez rien. Artemis, c'était la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Apollon, Apollo.
Bien
voilà.
Sûr.
C'était et la petite parenthèse culturelle. Merci Monsieur Clairvoy pour votre intervention. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Dans une seconde, c'est la culture qui arrive avec Bernard Lehu. Alors Bernard, il a dû lire. Vous avez lu combien de livres ? Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour Pascal.
Vous en avez lu combien, sérieux ?
Sur l'été,
depuis
là,
2 mois.
À peu près une, on va dire entre 40 et 50. Ce qui représente un dixième, on va en parler dans un instant, de l'ensemble de la rentrée littéraire.
Et ben vous avez beaucoup de chance, mais aussi de mérite, parce que parfois il y a des livres qui nous tombent des mains. Et 12h51, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, la fin de l'abondance. C'est peut-être aussi dans les librairies.
Et en cette période de rentrée littéraire, un phénomène bien français, on y reviendra dans un instant. Le nombre de sorties n'a jamais été aussi bas. À mon tour de vous saluer, Bernard Lehu, bonjour.
Ben bonjour Céline.
490 nouveaux romans attendus d'ici octobre. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est la plus faible rentrée depuis 20 ans. Comment on peut expliquer ce repli ?
Oui, alors, il faut rappeler qu'on est monté certaines années à près de 700 titres. Hein. Alors, ce qui peut expliquer la frilosité des éditeurs, c'est la baisse du pouvoir d'achat, évidemment. Et dans ce cas-là, on sait que les budgets de biens culturels sont les premiers à trinquer. Autre explication, la pénurie de papier et le surcoût de sa fabrication. Ça, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine en particulier. Et puis, on a enregistré dans les librairies un tassement des ventes au premier semestre. Là aussi, c'est l'effet guerre en Ukraine. Et puis, campagne présidentielle. On sait toujours que dans ce contexte, évidemment, les gens sont très occupés par l'actualité et se rendent moins en librairie, lisent moins. Ben voilà ce qui explique une certaine inquiétude et puis la grande prudence du monde de l'édition pour aborder cette rentrée.
Et cette rentrée, précisément, c'est une spécificité française ?
Ah ben, c'est un vrai phénomène unique au monde, au même titre que notre baguette, nos fromages ou le Beaujolais nouveau. Alors pourquoi ? Parce que économiquement, ça peut paraître comme une aberration. À la rentrée, les Français ont d'autres priorités. Le porte-monnaie réservé aux loisirs est un peu raplapla à la fin des vacances. Cette abondance de publications, elle s'explique par la saison des grands prix littéraires. Là aussi, autre particularité française. Ces prix sont tous concentrés à l'automne. Les éditeurs placent donc leurs pions dans cette compétition qui reste très rentable. Les prix, il faut le rappeler, boostent les ventes et surtout conditionnent les achats de Noël, qui est la période de plus forte vente, évidemment.
Et un livre, c'est cher, hein, parce qu'il n'est pas en poche. Les livres dont on parle ne sont pas en poche, c'est entre 15 et 20 euros.
Voilà, et sans doute plus dans les mois à venir avec l'augmentation du prix du papier qui sera inévitable.
Alors malgré tout, 490 romans attendus d'ici octobre. C'est énorme pour le commun des lecteurs. Vous en avez lu un dixième, vous nous l'avez dit. Faites-nous gagner du temps, Bernard. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ?
On va essayer. Si on parlait d'amour, tout d'abord, pour cette rentrée,
hein,
ça vous va ? Alors, Yann Kefelek signe « D'où vient l'amour ? Folle passion amoureuse entre Maud, 17 ans, et le fils de son patron dans un village des Cévennes, occupé par les Allemands. Un retour au roman très réussi de Yann Kefelek. On en parlera d'ailleurs ce soir chez Julien Cellier dans RTL Soir. Autre tête d'affiche qui a réussi son retour, c'est Laurent Godet avec Chien 51. Alors ça, c'est un formidable polar futuriste où les états en faillite sont rachetés par de grands groupes capitalistes. Bah oui, c'est peut-être qui nous pend au nez un jour ou l'autre. Et puis, j'ai beaucoup aimé La vie clandestine de Monica Sabolo. C'est le 7e roman de cette écrivaine à la plume subtile, singulière. Elle met en parallèle ici la folie meurtrière des terroristes d'Action Directe dans les années 80 et une autre violence, celle qu'elle a subie enfant, la violence de l'inceste. C'était assez casse-gueule. Mais là aussi, elle s'en sort très très bien. C'est très intelligent, très subtil. Et puis Sandrine Collette, lauréate du Grand Prix RTL Lire 2020, donc qu'on aime suivre ici, elle publie le saisissant On était des loups, le périple d'un père et de son fils à travers une nature hostile. Et puis je terminerai par, parmi ses coups de cœur, hein, quelques-uns parmi d'autres bien sûr, mais un grand Yasmina Kadra, Les Vertueux, l'écrivain algérien, auteur des Hirondelles de Kaboul, de l'attentat, met en scène la formidable épopée d'un berger du désert rescapé des tranchées de 14-18. Yasmina Kadra.
À travers ce livre, moi je voulais comment un personnage garde son humanité contre vent et marée. Et j'ai essayé de prouver que ce sont les épreuves qui forgent les convictions. Ce n'est pas la facilité, ce n'est pas la quiétude, ce n'est pas la sérénité. Ce sont les épreuves qui forgent les convictions. Et si ces convictions sont saines et belles et généreuses, ben, on aura triomphé de toutes les batailles.
Yasmina Kadra qui publie donc les Vertueux.
Et s'il y a des livres à éviter, là encore, faites-nous gagner du temps, Bernard.
Bon, alors là, j'ai toujours des scrupules hein, à condamner un livre, mais bon, parmi les ouvrages, on va notamment s'intéresser aux ouvrages très médiatisés de cette rentrée, vous avez déjà dû les voir dans la presse, deux déceptions. Le nouveau Amélie Nothomb, avec le livre des sœurs, consacré au lien avec sa sœur, trop superficiel à mon avis, par rapport à celui de l'an dernier, qui était très réussi, consacré à son père. Et puis, Cher connard, de Virginie Despentes, hein, on la voit partout, alors elle brasse ici les thèmes qui lui sont cher, le féminisme, MeToo, les addictions à la drogue. Mais bon, voilà, comment dire. Son style est bien à l'image du titre, Cher connard, est quand même trop lourdingue. À mon goût, je n'ai vraiment pas pu finir. Ben non, je ne peux pas, chère Virginie.
Et je rappelle que Virginie Despentes avait fait une chronique dans Libération où elle disait vouloir embrasser les frères Kouachi, qui à l'époque avaient fait effectivement scandale. À juste titre, peut-être. Merci Bernard Lehu, et puis ça va être un des thèmes peut-être pour les auditeurs. Est-ce qu'ils ont déjà lu tous ces livres ne sont pas encore en librairie?
Alors, tous ceux que je viens de citer, si le son, sont sortis au cours de ces deux dernières semaines.
Et bien peut-être voilà. Y a-t-il des auditeurs qui ont déjà un coup de cœur.
Oui, et certains titres apparaissent déjà dans les meilleures ventes.
Et bien c'est...
Courez chez vos libraires.
Exactement. Les auditeurs vont pouvoir réagir sur votre chronique. Il est 12h58. Je salue Damien Béchiot. Je salue toute l'équipe des auditeurs qui est en place. J'ai vu le célèbre Monsieur Boubouk qui a fait la tournée de toutes les plages cette année avec un succès dont il nous parlera dans quelques instants. Évidemment Laurent Tessier qui est là. C'est un plaisir de tous vous retrouver. Damien, tout va bien?
Très bien, et vous Pascal?
Eh bien écoutez, c'est parfait. 12h58, la pause.
RTL Midi.